Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral, votre radio locale antenne de Digne, où je reçois avec grand plaisir mon invité dans ce passionnément vôtre, où il sera question du Brésil. Et je reçois pour cela Franck Degoule. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur notre
Merci.
Antenne. C'est la première fois que vous êtes invité ici,
oui.
Que vous découvrez notre studio. Alors, on va parler, bien sûr, de la sortie de votre livre, Brésil, la grande traversée, un livre qui est paru très récemment.
Oui, le 6 mai chez Transboréal. Donc, il a un peu plus de deux semaines.
Donc, on parlera de ce livre, bien sûr, mais aussi de vous, de qui êtes-vous, Franck Degoule, puisque vous êtes un Dinois d'adoption. Vous êtes anthropologue,
oui.
Avec une spécificité sur les religions afro-caribéennes. Mmh. Déjà, en quoi consiste ce drôle de métier?
Alors, ce drôle de métier, moi, mon trajet m'a amené, pour une thèse de doctorat, à travailler en Haïti, où j'ai étudié le vaudou haïtien et la figure du zombie, donc le mort-vivant. Non pas celui qu'on connaît par le cinéma hollywoodien, mais tel qu'il est conçu dans son lieu, son foyer d'origine, c'est-à-dire Haïti, donc comme une forme d'esclave qui, par des moyens magicaux, religieux et sorcellaires, donc liés à la sorcellerie, et réduit en servitude et travail, de jour comme de nuit, dans des plantations reculées, enfin voilà. Donc tout ça s'inscrit dans ces religions né dans le creuset de la plantation esclavagiste, avec cette main-d'œuvre servile, esclave, transbordée d'Afrique aux Amériques pour le travail dans les plantations de canne à sucre. Voilà, religion qu'on retrouve, pas simplement à Haïti, mais également parmi d'autres à Cuba, mais également aux Antilles françaises, dans tout cet arc antillais, mais également plus largement dans la Caraïbe, et y compris d'ailleurs au Brésil, où le candomblé est une forme parmi d'autres de ces religions afro-caribéennes, donc nées aux Amériques d'héritage africain.
Vous avez beaucoup voyagé aussi. Ce goût des voyages, c'est depuis toujours ?
Depuis toujours, oui, parce que, au moins depuis la petite enfance, puisque nous avons vécu avec mes parents, mon frère et moi, donc aux Antilles, en Guadeloupe, puisque nos parents travaillaient là-bas, sur place. Et puis, on peut remonter un peu plus loin cette filiation du voyage, puisque finalement, nos parents sont nés respectivement, dans deux pays d'Afrique, puisque leurs parents eux-mêmes travaillaient en Afrique. Donc, tout en étant français et métropolitain, on avait un lien très particulier avec cette Afrique. Le virus du voyage était déjà instillé depuis longtemps.
Vous avez aussi enseigné. Vous êtes passé donc par professeur d'histoire-géographie.
Eh oui,
ça a un lien aussi avec le goût de...
L'ouverture au monde, la connaissance des différents pays, leurs relations, leur géographie, leur relief. Évidemment, il y avait là encore un lien avec le voyage, oui. Donc finalement, c'est vrai que c'est un petit peu le fil rouge de cette existence. Voilà.
Combien de temps vous avez été professeur ? Parce que vous avez quitté
une année.
Une année
très,
seulement.
Très enrichissante, mais c'était précisément l'année avant laquelle je suis parti au Brésil. Donc j'ai dû quitter l'enseignement pour réaliser ce projet. Et puis ensuite, la vie m'a laissé d'autres chemins, quoi. Voilà.
Alors, est-ce qu'on va directement à la rencontre du Brésil? Qu'est-ce qui vous a attiré au Brésil? Et donc, le but de ce voyage en 2009?
Alors, qu'est-ce qui m'a attiré au Brésil? Il y avait déjà les connaissances que j'en avais par la voie ethnologique, puisqu'encore une fois, travaillant sur le vaudou haïtien, il m'avait fallu comparer avec leur équivalent brésilien à ces religions afro-américaines. Donc, je le connaissais de manière livresque, par les livres. Comme tout Français, j'avais des images un peu floues, mais très fortes, très vives sur le Brésil, puisque le Brésil a quand même une place dans notre imaginaire culturel très importante. Et puis, il y avait également l'aspect géographique, puisqu'en fait, moi, je m'étais donné une année environ pour réaliser un projet de marche, comme ça, en solitaire. Et le Brésil présentait cet avantage tout à la fois d'être très varié, très divers d'une région à l'autre, et en même temps de représenter un univers, un monde, par sa taille géographique, puisque vous prenez 4000 km du nord au sud, 4000 de d'est en ouest, et vous avez à peu près le Brésil par ses points les plus extrêmes. Donc les 4000 en ligne directe, donc c'est beaucoup plus long par la route ou par les pistes, puisque j'ai marché environ 5000 kilomètres. Mais disons, voilà, le Brésil avait présenté cet avantage d'être immensément vaste et donc de pouvoir constituer une sorte, un voyage en soi dans un seul et même pays. Et en même temps, promettait par la diversité de ses régions, de ses populations, de ses origines historiques, promettait par toute cette diversité du changement dans le même, si on veut, voilà.
Et vous étiez à la recherche de quoi? Donc, il y a parce que l'aspect de marcher 5000 kilomètres, c'était dans une recherche un peu spirituelle. Est-ce que c'était comme un pèlerinage à la rencontre des gens, à la rencontre d'une culture?
Pas vraiment un pèlerinage. Il y avait plusieurs choses. D'abord, bon, le fait que c'était un peu un contre-pied de ce que j'avais fait auparavant, à savoir que bon, l'ethnologie, hein, je rappellerai que c'est l'étude d'une population, enfin d'un sujet social ou culturel qui occupe cette population. Mais bien souvent, ce sont des petits ensembles. Enfin, on essaie du moins que ce soit des petits ensembles. Donc, c'est peut-être un village, une ethnie, qui nécessite une inscription dans le temps long. On reste longtemps au même endroit ou dans des périphéries proches pour essayer de comprendre tel fait social, telle signification, tel mécanisme. Donc, c'est ce que j'avais fait pour ma thèse de doctorat, pour mes recherches antérieures. Et là, je voulais casser un petit peu ce mode d'approche de l'altérité, de l'autre, et partir sur un projet complètement, prendre le contre-pied en quelque sorte de cette démarche antérieure, à savoir faire un voyage non pas dans un espace réduit mais sur un espace très étendu, et non pas en demeurant longtemps mais en passant quotidiennement. Donc c'était d'abord ce contre-pied-là qui m'intéressait. Et puis il y avait la dimension de challenge, évidemment, puisque bon, je randonnais comme la plupart des gens qui randonnent, comme tout un chacun, je pourrais dire, ni plus ni moins. Donc là, ça constitue également un défi physique, parce que je ne savais pas si j'en serais capable dans le temps. Donc bon, j'ai dû me préparer et puis voir ce qu'il adviendrait. Donc il y avait cet aspect de dimension physique. Et puis peut-être que je pense que les raisons de ce type de voyage, de rupture, de départ, ne nous sont pas très claires non plus. Là, j'essaye de rationaliser. Mais finalement, tout ça nous déborde un peu et nous travaille un petit peu de l'intérieur. Donc probablement que le moment est venu d'effectuer une forme de rupture et de marcher. Alors au-devant de quoi ou derrière quoi ça... Je partais avec une idée assez floue, assez vague de la chose, mais en tout cas de marcher vers.
Mais vous avez préparé longtemps ce voyage, vous dites vous êtes préparé physiquement.
Oui.
Est-ce que vous êtes parti avec un sac à dos chargé? Quelles sont les précautions?
D'ailleurs, dans les environs, disons que c'est dans un premier temps, c'est évidemment rassembler le matériel qu'on pense nécessaire. Donc c'est évidemment le test du matériel, son achat, et puis ensuite se mettre en condition, c'est-à-dire qu'effectivement on imagine marcher avec ce matériel-là pendant tant de kilomètres par jour et voir comment son corps peut réagir dans un premier temps, l'habituer petit à petit, très concrètement faire ses chaussures aussi, les casser, les faire à son pied. Donc peut-être que certaines personnes qui nous entendent m'ont croisé dans les années... en 2008-2009, marchant sur les routes du département ou vers ses principaux sommets, en condition chargée pour me préparer à cette aventure brésilienne. Ce qui, on pourra peut-être en parler plus tard, ce qui en fait à la fois prépare et en même temps ne prépare pas du tout, puisque sur place, mille autres facteurs font que les choses diffèrent. Donc finalement, tout commence lorsqu'on est sur place.
Vous aviez tracé un itinéraire précis? Est-ce que vous aviez des gens qui vous attendaient là-bas ou des points de chute?
Non, j'avais un seul point de chute, des amis d'amis, donc je ne connaissais pas personnellement, qui eux se trouvaient à ce moment-là à Brasilia, la capitale fédérale, et qui se situent à mi-chemin du parcours que j'ai effectué. Et de toute façon, je devais, pour des questions administratives et de visa, séjourner quelque temps à Brasilia. Donc ça a été l'occasion d'une coupure aussi dans mon voyage, d'un peu plus d'une semaine. C'était le seul point d'adresse fixe, si vous voulez, c'est le rendez-vous que j'avais pris avant de partir. Donc non, je pensais compter sur les gens que je rencontrerais en chemin, ce qui a été parfois le cas et ce qui a été également plus difficile que je ne l'imaginais sur place. Donc non, pas vraiment de point fixe. Et pour l'itinéraire, oui, j'avais un sens, disons. J'étais persuadé qu'il me fallait passer par l'intérieur et non pas par la côte. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que faire cette traversée du Brésil, du sud au nord, par la côte aurait représenté une distance beaucoup plus importante et donc m'aurait demandé un temps que je ne pouvais pas me permettre d'allouer à ce projet. Donc le choix de passer en ligne directe, hein, comme un jet de flèche du sud au nord par l'intérieur, dans l'axe Porto Alegre, Belém, Brasilia, enfin plutôt Porto Alegre, Brasilia, Belém, me permettait voilà, d'être plus directement à mon objectif. Et puis après, ça s'est fait sur place, c'est-à-dire que c'était en fonction des renseignements pris auprès des personnes de rencontre, également avec les quelques cartes dont je disposais sur place. Voilà. Donc ça se faisait à la semaine, si on veut. Voilà, j'avais une orientation définie, mais sans parcours précis. Ça s'est fait sur le moment.
Est-ce que vous aviez une idée des gens que vous alliez rencontrer, du mode de vie qui a été peut-être faussé ou,
Oui, faussé ouais. À plusieurs... encore une fois, dans le voyage, il y a la partie, lorsqu'on prépare et lorsqu'on arrive, hein, il y a la partie fantasmatique, c'est-à-dire qu'on est encore vierge de ce qu'on va découvrir. Donc, ce qui parle lorsqu'on voit ce pays et ses habitants, c'est avant tout ce qu'on a pu en lire ou ce qu'on a pu en imaginer. Avant tout, la représentation qu'on s'en fait par d'autres représentations. Donc, pour donner un exemple, j'étais tellement loin du fait qu'une semaine avant de partir, j'ai hésité à prendre un hamac et non pas une tente. Et j'ai bien fait, puisque je me disais que dans la pampa du sud, évidemment, je savais que dans le sud, il y avait des pampas, c'est-à-dire des prairies à perte de vue, rases, alors vraiment, où les arbres sont là vraiment de temps en temps pour matérialiser des propriétés. Mais alors heureusement, je n'ai pas pris de hamac parce que j'aurais vraiment eu l'air d'un imbécile. Je n'avais aucun arbre pour l'attacher. Donc voilà, vous vous rendez compte que malgré ma préparation, une semaine avant, je me disais... voilà. Et alors heureusement, j'ai préféré la tente qui a été beaucoup plus utile. Voilà, donc en fait, effectivement, on apprend réellement sur place. Alors la préparation est nécessaire, ça c'est sûr, hein, comme toute chose. Déjà parce que la préparation permet de juguler l'angoisse un peu. Alors déjà, rien que pour ça, ça ritualise un peu le départ. Alors rien que pour ça, ça a son intérêt et sa fonction. Ensuite, finalement, on se prépare à être et on apprend et on est vraiment une fois qu'on est sur place. Quoi. Voilà.
Un voyage qui a duré 9 mois, vous aviez prévu ce temps-là ?
Oui. J'avais une estimation, disons. Oui. Ça ne devait pas dépasser 1 an, parce qu'encore une fois... Ou alors le projet aurait été plus ambitieux géographiquement, c'est-à-dire parcourir non pas le Brésil mais l'Amérique latine. Mais là, il aurait fallu compter un temps beaucoup plus long. Et là, je m'étais donné 1 an. Voilà. Ce qui permet aussi de borner son aventure en se disant que bon, bah, du point A au point B, ensuite, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait même d'ailleurs pas si on arrivera au terme et au point B en question. Quoi. Voilà.
Et alors la rencontre avec les Brésiliens, comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été facile ? Le fait de voyager seul à pied, certainement, les gens viennent facilement vers vous ou pas ?
Eh bien, c'est là où c'est finalement non. Moi, je pensais. Par exemple, le Brésil est un pays très, très catholique, parce que c'est sa constitution historique, le catholicisme est très important. Donc, je me suis dit, dans un pays aussi catholique, c'est même d'ailleurs un des pays où il y a le plus de catholiques... Et je me disais que dans un pays catholique, l'image du pèlerinage précisément et l'image du pèlerin muni de son bâton pourrait jouer en ma faveur, puisque j'étais un homme seul, déambulant, marchant sur des routes ou des sentiers, des pistes. Et bien finalement, pas tant que ça. C'est-à-dire que ma première découverte, et ça quelques jours après avoir entamé mon voyage, à l'extrême sud, à la frontière avec l'Uruguay, dans cette petite ville qui s'appelle Chuy, et qui est partagée en deux entre le Brésil et l'Uruguay, lors de ce départ, très vite, je comptais pouvoir espérer sur la générosité des gens rencontrés. Et en fait, j'ai rencontré beaucoup plus, plutôt de la méfiance.
Ah oui ?
La méfiance, de la suspicion. Alors, évidemment, c'est une zone frontalière. Comme toute zone frontalière, il y a probablement des inquiétudes. Enfin bon, j'ai dû me résoudre finalement à cette réalité que l'accueil chez l'habitant, comme on s'imagine que se fait le voyage aujourd'hui, l'accueil chez l'habitant ne serait pas simple. Ce qui n'a pratiquement pas été fait sur les 5000 kilomètres parcourus.
Pratiquement pas d'accueil chez l'habitant.
Ah non. C'est le grand paradoxe, en fait, du Brésil. Ce qui ne fait pas du Brésil un pays plus détestable pour autant. Hein. Enfin, plus, c'est un pays absolument merveilleux, avec des gens d'une générosité incroyable. Mais là encore, on dirait en ethnologie, c'est un peu l'équation personnelle. C'est-à-dire, c'est tous ces déterminants, toutes nos caractéristiques qui vont... entrer en compte dans l'interaction et dans le rapport que l'autre aura à nous. Et là, en l'occurrence, un homme seul, d'un certain âge, d'une trentaine d'années, qui, malgré le soin qu'il portait à être correctement habillé, eh bien, avec la fatigue, la sueur, n'était pas toujours présentable. Tout ça a fait qu'il y avait une méfiance qui m'entourait. Enfin, en tout cas, dans ces premières journées, il a fallu vraiment accepter cette dure réalité que le voyage ne se passerait pas comme je l'avais imaginé. Et là encore, précisément, c'est signe que le voyage a réussi. Et j'ai donc dû me trouver des moyens, donc précisément par la tente, dire dorénavant, je devrais me débrouiller tout seul. Et même si plus j'avançais, plus les relations se détendaient, eh bien finalement, le passage de l'empathie et de la sympathie autour d'un café, près d'un comptoir de routier, tout ça amenait rarement, sinon jamais, à une invitation à domicile. Donc ça tient également à une forme de sociabilité brésilienne, probablement. Enfin, lorsqu'on compare cette expérience avec ce que peuvent dire, ce que me disent des amis revenant du Brésil, São Paulo ou Rio, disant qu'ils avaient des contacts sur place brésiliens et que les gens avaient été vraiment merveilleusement accueillants, et sans méfiance, ça, je veux bien le comprendre dans un autre contexte. C'est-à-dire qu'on vient par des relations, on est en ville, les gens étaient peut-être également plus ouverts. Mais ce n'était pas mon cas par le fait même de ce type de voyage et des partis pris et des choix qui avaient été les miens pour voyager au Brésil. Mais ça donne simplement une vision d'un autre Brésil, finalement.
Alors, en même temps que vous m'expliquez tout ça, je reviens sur avant le Brésil, puisqu'il y a eu beaucoup de choses. Vous avez fait des expériences. Aussi, je vois que vous avez parcouru le Burkina en bus et à moto.
Oui.
Puis le Togo et le Bénin.
Oui.
Est-ce qu'on peut revenir à ces périodes-là,
bien
avant
sûr.
D'explorer de plus en profondeur le Brésil?
Mon frère s'y trouvait au Burkina Faso pour l'apprentissage du djembé. Puisque la ville de Bobo Dioulasso, donc il n'est pas la capitale, Ouagadougou, la capitale, mais Bobo Dioulasso, qui est, si je me souviens bien, 300 km à l'ouest, ou peut-être un peu plus, la ville de Bobo Dioulasso est sur le plan artistique, par son héritage mandingue, est très, très puissant. Donc mon frère s'y trouvait pour l'apprentissage au foyer culturel donc, du djembé, et donc on l'a, avec un ami et nos compagnes, nous l'avons visité. Et ça a été l'occasion de partir plus au sud, vers le Togo et le Bénin, ces pays côtiers, où se trouve, en tout cas pour le Bénin, le foyer du vaudou haïtien. C'est-à-dire qu'une bonne partie des éléments culturels qui caractérisent le vaudou en Haïti proviennent de cette région de l'Afrique et en forte proportion du Bénin, où le vaudou est toujours une religion très, très vivante. Voilà, donc on avait ce projet avec un ami vidéaste et réalisateur de courts-métrages. On avait le désir de confronter un petit peu ces deux vaudous, de revenir aux sources, ce qui finalement a été là aussi moins facile que prévu. Donc on a dû se rabattre sur un autre sujet de documentaire, et là, au Togo, mais toujours en lien avec la traite négrière, l'esclavage, donc toujours en lien finalement avec les études que j'avais réalisées en Haïti, et puis auparavant en Martinique. Donc c'est ce qui nous a conduit à connaître un petit peu le Burkina Faso, et surtout à séjourner au Togo et au Bénin pour à la fois découvrir, parce que nous ne connaissions pas ces pays, et en même temps... essayer de monter ce documentaire qui finalement n'a jamais vu le jour pour des questions de simplement techniques de montage, et puis le projet est un petit peu tombé à l'eau. Mais nous avons encore tous les rushs, peut-être qu'un jour ce projet aboutira, mais ça a été. Et puis alors, vraiment une découverte de l'Afrique, moi je n'y étais jamais allé auparavant, et qui m'a à la fois surpris et puis qui m'a émerveillé là aussi.
Franck de Goule, donc on en revient à la sortie très récente de votre livre, on parle de film et on parle de livre, Brésil, la grande traversée. C'est un livre donc qu'on peut trouver dans les librairies. Et c'est à quelle maison d'édition ?
Édition Transboréale.
Transboréale.
Qui est la maison, en France, une maison d'édition spécialisée sur le récit de voyage, mais pas seulement. Il y a surtout une très belle maison d'édition qui fait des ouvrages, vous le verrez pour ceux qui s'en approcheront, des ouvrages somptueux.
C'était aussi un objectif dans votre voyage que de revenir avec un livre.
Alors bien sûr, évidemment.
Carnet de voyage, c'était indispensable pour l'aventure.
Ah oui. Alors, pour plusieurs raisons, là aussi. Alors, j'avais cette ambition-là, évidemment. Mais alors, entre l'ambition et la réalisation, on se dit toujours que les étapes sont nombreuses et on ne les connaît pas. Donc, jusqu'à la fin, moi, je n'étais pas sûr que mes écrits aboutisse en un récit mis en forme que représente le livre de voyage. Mais voilà, en tout cas, il y avait cette notation quotidienne des événements, des impressions, des rencontres, de manière d'une part à en conserver le souvenir, et puis lorsqu'on se trouve seul en voyage, c'est aussi une manière de partager toutes ces impressions-là, hein, en les couchant sur le papier, donc à la fois de les conserver, de les partager, et en se disant qu'un jour prochain, pourquoi pas, tout cela mis en forme pourrait donner un ouvrage. Voilà, on reviendra peut-être après sur le processus d'écriture, qui lui aussi est passionnant, très long. Enfin, en tout cas, voilà, il y avait cette notation quotidienne, oui, dans un carnet. Alors, il faut imaginer que c'est parfois c'est une discipline, parce que lorsqu'on a... On a marché. Moi, je tenais ma moyenne et c'était environ 28 km par jour. Ce qui est à la fois peut paraître peu, mais qui en même temps, selon le poids transporté, selon les conditions, peut s'avérer beaucoup. Mais en tout cas, voilà, autour de 25 km, ça me paraissait une très bonne moyenne. Donc, parfois, malgré la fatigue, s'astreindre à écrire, malgré les fonctions que j'ai évoquées, s'astreindre à écrire est parfois difficile et il le fallait. Et finalement, je suis très satisfait de l'avoir fait, puisque ça peut donner lieu aujourd'hui à un récit, et donc à un partage de cette expérience, cette aventure. Voilà. Après, encore une fois, le long processus créatif qui amène du récit avec un petit R au récit avec un grand R, c'est-à-dire la mise en forme d'une aventure personnelle et d'un certain regard sur le Brésil et sur les Brésiliens.
Je vous propose de faire une petite pause musicale avec un choix donc, que vous avez fait et d'écouter Gabriel O. Pensador et Festa de Música.
Festa da Música.
Há muito tempo tá rolando essa festa maneira da música popular brasileira. Convidou, mas eu queria entrar. Peguei um 75 e vim direto pra cá, pra festa da música Tupiniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar, e muita gente ainda tá pra chegar. Na festa da música Tupiniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar, e muita gente ainda tá pra chegar. Na portaria o segurança pediu crachá do Gilberto Gil, ele apenas sorriu, acompanhado por Caetano, Djavan, Pepe, o Eva Moraes, ao seu Valença.
Já comigo, dá licença, abre essa porta, cabra da pé.
E foi assim que eu penetrei com a galera do Nordeste. Baby tá na área, senti firmeza. E aí, Sandra de Sá?
Bye, bye, tristeza.
Beer night à vontade a noite inteira. Olha o Ed Mota saltando a geladeira. Olha quanta gata bonita e gostosa. Olha o Tiririca com uma negra cheirosa. Ué, cadê os críticos? Ninguém convidou? Cabide, mas o Ney tirou a roupa. Psst, Paulinho Mosca posou na minha sopa. Cidade Negra apresentou um reggae nota 100. Tá rolando um skunk também. E o Tim Maia até agora nem pintou. Mas o Jorge Benjó trouxe a banda que chegou pra animar a festa. É a festa da música do Piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar, e muita gente ainda tá pra chegar. Na festa da música do Piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar, e muita gente ainda tá pra chegar. A festa tá correndo bem, o Lobão até agora não falou mal de ninguém. O Barão e o Titã estão tocando o Raulzito, a Rita Lee tá vindo ali. Hã? Não acredito. Ela olhou pra mim e disse, vai lá comigo. Eu senti aquele frio no umbigo, mas é claro que adorei o convite. Fui dançar ouvindo o som do Kid Abelha, Paralamas e a Blitz.
Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais.
Seguro o tchan, amarra o tchan.
Show, Satanás.
Haha, Lulu Santos acabou de chegar. Com a pimenta malagueta pro planeta balançar. O Chico, César, Sainz e o Buarque observam o pessoal dançando break no chão. E no andar lá de cima, um dos donos da festa tá na boa, tá em paz, tá tocando violão. Da música do Piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar, e muita gente ainda tá pra chegar. Na festa da música do Piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar, e muita gente ainda tá pra chegar. Chope na tulipa, vinho na taça,
camisinha na boquinha da garrafa.
Salve-se quem puder. Ih, o João Gordo vomitou no meu pé. Fui limpar e dei de cara com os Raimundos, que me contaram que entraram pelos fundos. Perguntei pelo banheiro e fiz papel de mané. Os
sacanas me mandaram pro banheiro de mulher. As meninas estavam lá e foi só eu entrar, que a Cássia, a Elis e Posse e a Gal começaram a gritar. Quanta saúde, Fernanda Abreu, Daniela Mercury, Marisa Monte, Daúde. Calma, eu não vi nada. A Ângela Rorô queria me dar porrada, mas os três malandros, Moreira, Bezerra e de Cro, me ajudaram a escapar do pior. Fui pro fundo de quintal, casa de bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Bete, Carvalho, Alcione, Zeca, Pagodinho, Neguinho da Beija-Flor. Diz aí, Martinho, como é que é, professor?
É devagar, é devagar, é devagarinho.
Na festa da música do Piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim, todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar. Muita gente ainda dá pra chegar. Na festa da música do Piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim, todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar. E muita gente ainda dá pra chegar. Essa festa é uma loucura. Olha lá o Carlinhos Brau, o pessoal do Sepultura. Vieram com os índios chavantes, e a polícia veio atrás tentando dar flagrante. O índio tem apito e eu não entendi porquê. Começaram a apitar quando a polícia chegou, mas a galera do cachimbo da paz nem escutou, porque o Olodum tava fazendo um batuque maneiro. Até chegarem milhares de fangueiros, eram tantas duplas que eu até me confundi. Chamei o Leandro e o Leonardo de MC, o Zezé de Camargo e o Luciano ficaram me zoando. E o funk rolando, ah, vocês tinham que ver, Chitãozinho Chororó gritando uterere. O pessoal da Jovem Guarda agitando sem parar, estavam em outra festa, mas vieram pra cá. Passei ali por perto e ouvi o Roberto comentar: ei, ei, que onda, que festa de arromba.
Existem mil garotas querendo passear comigo.
Vai! Todo mundo no maior astral, mas rolou um boato que preocupou o pessoal. Diziam as más línguas, a boca pequena, que o Michael Jackson tava chegando pra roubar a cena. E foi aí que a Marina ouviu uma buzina e todos foram pra janela na maior adrenalina. Uma Brasília amarela dobrava a esquina. Adivinha quem era? Que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar. E muita gente ainda dá pra chegar. Na festa da música do Piniquim, que tá rolando aqui na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar. E muita gente ainda dá pra chegar. Aqui na festa da música do Piniquim, na rua Antônio Carlos Jobim. Todo mundo tá presente, rapaz. E muita gente ainda dá pra chegar.
On revient donc vers le Brésil et vers mon invité Franck de Gaulle, qui est né en 1976 et qui a grandi dans les Alpes de Haute-Provence. Franck de Gaulle qui a fait donc la grande traversée, enfin c'est le titre du livre Brésil, la grande traversée aux éditions Transboréales, du sud au nord par l'intérieur du pays, 5000 km à pied en solitaire à la recherche de quoi ?
À la recherche. À la recherche de quoi ? On ne sait pas trop. En fait, on veut arriver, voilà, ça c'est sûr. On veut arriver quelque part. Alors, on s'est fixé ce quelque part, ce qui distingue ce type de voyage de l'errance, puisque ce n'est pas une errance, c'est un acheminement. On va vers un but, vers quelque chose qu'on s'est fixé, qui pourrait être ce but-là comme un autre, donc qui est finalement très vain. Pourquoi s'arrêter ici et pas là ? Bon, enfin. Mais voilà, on s'est fixé un but, on veut y parvenir et on s'achemine, on s'efforce. Et alors, vers quoi ? Je crois que, en fait, l'apprentissage, ce qu'apprend ce type de voyage, ce que m'a appris ce voyage, c'est que finalement, on s'achemine vers la fin de la journée. C'est-à-dire que lorsqu'on est parvenu à marcher une journée et à peu près à se dire, voilà, ce soir, je serai à peu près ici, et qu'on on arrive épuisé, éreinté, mais on est parvenu. Et on se dit que finalement, ce qui au départ effrayait, c'est-à-dire 5000 km, 10 états traversés, imaginez, vous partez de Lisbonne en ligne droite et vous allez plus de 500 km derrière Moscou. C'est la distance effectuée au Brésil. Donc on se dit que c'est complètement hallucinant. Eh bien, on réalise, on comprend que c'est la succession et l'addition de ces petites journées réussies qui nous fait arriver. Et donc, on en vient à respecter beaucoup la journée pour ce qu'on a pu en faire et pour ce qu'elle a pu nous apporter et pour ce qu'elle a pu nous fournir l'occasion d'arriver à l'endroit auquel on souhaitait arriver le matin en partant. Alors ensuite, au fur et à mesure, évidemment, naissent des enseignements de la marche. Au-delà de ça, au-delà de la journée réussie, il y a aussi la vertu du lâcher-prise. Puisque on est constamment assailli d'angoisse, de doute. Est-ce que je trouverai des conditions pour planter une tente en arrivant? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire pas de couchage. Si pas de couchage, que faire? Il faut quand même se reposer. On est assailli de doute. Et puis, on s'aperçoit que, finalement, les choses se résolvent en leur temps, à leur rythme, et qu'en intervenant le moins possible, mais par contre en favorisant, en étant disponible, et les choses adviennent. Et lorsqu'on a compris ça, on accepte le lendemain, on accepte l'incertitude avec beaucoup plus de force et beaucoup plus de confiance. Parce qu'on se dit que finalement, rien de mal ne peut survenir, rien de terrible ne surviendra, puisque tout s'arrangera. Donc, mais ça s'apprend, je crois. Bon, après, ça dépend aussi des personnes. Moi, je suis d'un naturel plutôt anxieux, donc il est probable que ça rentre en ligne de compte. Mais je crois quand même que l'enseignement est valable de manière générale. On apprend ce détachement, ce lâcher-prise, qui est quand même une leçon très, très riche, puisqu'elle nous sert non pas seulement dans le cadre de ce voyage, mais en fait au quotidien, en règle générale, la façon d'aborder l'avenir, la manière de se projeter et tout ça. Et on s'aperçoit que c'est ça, il faut en quelque sorte s'acheminer vers, mais et tout en laissant faire.
Alors c'est paradoxal pour quelqu'un qui est plutôt d'un naturel anxieux de partir à la découverte d'un pays, voyager seul. Paraît. Alors est-ce que c'est un challenge pour un travail sur vous?
Oui, pas de manière thérapeutique. Oui, parce que je pense que c'est une ligne de conduite, c'est un objectif qui m'anime depuis quand même un certain temps. Et je trouve que se confronter à la difficulté lorsqu'on l'a choisie, lorsqu'elle est subie, c'est beaucoup plus terrible. Mmh. Mais lorsqu'on l'a choisi, se confronter à la difficulté est quand même riche d'enseignement, là encore, pour reprendre ce terme que j'aime beaucoup. Mais parce que finalement, on est en mesure de... On réagira tel qu'on ne pensait pas réagir, on se surprendra, et puis, quelque part, on se sculpte, quoi. Voilà. Au sens où je crois que, de la même manière que les événements de la vie nous forment, nous modèlent, on peut également se mettre en condition de se sculpter, c'est-à-dire de commencer à faire de soi une matière. Parce qu'évidemment, on a une action sur le monde, mais le monde nous transforme en retour. Et donc, le rapport au monde qu'on aura choisi nous transformera à cette aune-là. Et donc, un voyage engagé physiquement sur de longues distances apporte la moisson de ses efforts et voilà. Donc ça, effectivement, je pense que c'est un objectif personnel qui était déjà plus ancien et qui s'est réalisé de cette manière là mais qui aurait pu l'être d'autres manières,
Alors, autour de vous, avant votre départ, vos amis vous ont rajouté une pression supplémentaire en vous disant « tu es pas fou, tu vas pas t'en sortir vivant il a fallu. Est-ce que vous avez été surpris? Vous avez eu peur donc de traverser le Brésil, qui vous arrive quelque chose? Est-ce que vraiment le Brésil est un pays dangereux et de quoi vous auriez pu avoir peur?
Alors, si on regarde les statistiques, oui, le Brésil est un pays dangereux. Enfin, en tout cas, dans ses principales villes, dont certaines comme São Paulo. Regroupe presque 20 millions d'habitants, donc il faut imaginer. Donc oui, São Paulo, Rio, les principales métropoles. Effectivement, là, la statistique parle d'elle-même, c'est-à-dire qu'il y a un nombre d'homicides quotidiens qui est parmi les plus élevés au monde. Ensuite, j'en parle dans le livre, je crois que la question de la violence au Brésil, donc d'une part, est bien réelle, mais d'autre part, et c'est pas moins important, est quand même largement fantasmé également. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une nécessité de parler de la violence et d'en faire de faire un focus sur la violence au Brésil, peut-être pour des questions de faire nation. Enfin, c'est du moins l'hypothèse que j'avance dans l'ouvrage, quoi. Et donc, la violence est quotidienne. Il suffit d'allumer la télé, un journal de 20 heures, ou des émissions même auparavant, toute la journée, sur certaines chaînes. Comme le pays est truffé de caméras de surveillance qui ont été placées précisément parce qu'il y avait cette violence, donc il y a quotidiennement de nouvelles images de vols, de braquages pris sur le fait. Et donc, ça concourt à entretenir une sorte de folie générale autour de la violence. Donc elle est quotidienne. Alors moi je l'ai vu, je l'ai expérimenté. Les gens que je rencontrais, qui me voyaient, me disaient mais tu ne feras pas 500 km, c'est pas possible. Allez, je te donne peut-être 100 km, tu as la chance, mais on va te détrousser. Tu es seul, long de pistes, long de routes, c'est pas possible. C'est mathématiquement. Alors au début on en rigole un peu. On se renseigne, on en rigole déjà moins. On se dit effectivement, c'est pourquoi pas. Enfin, oui, il est arrivé bien pire dans des circonstances qui étaient plus confortables. Donc, pourquoi pas. Ensuite, on essaie de s'en distancer et de s'en défaire parce qu'on se dit, on peut pas marcher comme ça quotidiennement en se disant qu'on a 10 minutes à vivre. Donc là aussi, entre en jeu le fait qu'on va essayer de travailler sur soi et de chasser cette peur. Et puis elle revient évidemment au moindre indice, c'est-à-dire qu'il suffit parfois qu'une voiture fasse demi-tour. Pour vous accoster, pour que tout à coup vous dites c'est le moment, quoi. Et on va m'arrêter, me détrousser. si je reste en vie, ce sera déjà beaucoup. En fait, au final, il s'avère que ce sont des personnes qui vous ont vu marcher les jours précédents, qui repassent fréquemment par cette route et qui, à la 11e fois qu'ils vous ont vu, veulent s'arrêter pour vous offrir de l'eau, savoir comment vous vous appelez, d'où vous venez. Donc en fait, la peur l'a emporté sur la réalité. Mais oui.
Alors, est-ce que la religion, dans ces cas-là, puisque vous avez étudié, vous, les religions afro-caribéennes, mais est-ce que dans des moments de peur comme ça, vous-même, vous vous rattachez à une croyance positive, qu'elle soit religieuse ou autre ?
Non, pas envers un dieu. Pas envers un dieu, non. Par contre, je laisse faire les choses. On accepte, par contre, alors après, pas de religion, par contre, les philosophies, oui, peuvent précisément nous aider, parce que c'est un de leurs propos. On parle de quoi ? De la question de la mort, finalement, et puis de l'angoisse, de la peur. Des pensées, des philosophies, oui, ça, je pense, peuvent nous diriger, peuvent nous soutenir, nous encadrer pour résoudre toutes ces questions-là, dans ces moments comme ça. Extrême, extraordinaire, ou même au quotidien. Non, après, la religion elle-même, non, je ne trouvais pas de secours dans la religion. Mais, on se dit également, peut-être, on est tout aussi irrationnel, on se dit que la bonne étoile, même si c'est une notion très vague, confuse, qui ne peut pas être démontrée, mais on se dit que la chance, probablement, rentre en compte. Et puis, on se dit quelque part que c'est comme ça, c'est-à-dire que ce qui doit advenir advient, non pas parce qu'il y a un destin, mais parce que, c'est un concours de circonstances et on est là au mauvais moment, au mauvais endroit, je ne sais pas. Mais par contre, il faut apprendre à... On apprend à gérer et à administrer cette angoisse, cette peur. Parce qu'on ne peut pas vivre avec ça. Donc, on est obligé de la prendre en compte et de la transformer.
Quand on pense Brésil, on pense donc, on l'a dit tout à l'heure, football, carnaval, danse. Mais il y a aussi tout le côté misère, notamment beaucoup d'enfants sont obligés de voler pour survivre. Voilà. Vous avez rencontré cette misère ?
Alors encore une fois, moi, m'étant pas rendu par exemple à Rio, avec ces fameuses favelas, par contre la misère, moi je l'ai rencontrée au long des routes, c'est-à-dire des enfants qui par exemple avaient monté, enfin des enfants, des adolescents mais très jeunes, avaient monté des ateliers de lavage de poids lourds et gagné un peu de monnaie avec ce moyen. C'est parfois aussi des problèmes de scolarisation. Donc oui, elle est en même temps, voilà, mon itinéraire a fait que finalement, je ne suis pas allé non plus au contact de cette misère. Et alors, c'est vrai qu'elle est souvent associée au Brésil. Bon, pour une juste raison, hein, c'est un pays très clivé, le Brésil, quoi. Donc, effectivement, elle existe. Mais mon itinéraire, qui était finalement plutôt un monde d'adultes, hein, celui de la route, ne m'a pas donné l'occasion réellement de la fréquenter, cette misère infantile, quoi. Voilà. Et quelque part, heureusement, parce que je n'étais pas allé là-bas non plus pour ça. Et bon, le monde est déjà suffisamment difficile pour en plus aller essayer d'en chercher les coins les plus sombres, quoi. Voilà. Mais et puis bon, il y a quand même une disparité, voilà, là aussi entre États. Bon, c'est d'une part un pays, le Brésil, qui est très très clivé de manière générale, c'est-à-dire des gens très riches et des gens extrêmement pauvres, quoique la classe moyenne se constitue de plus en plus, notamment depuis la présidence du président Lula da Silva, mais également entre États, c'est-à-dire que les États du Sud, majoritairement blancs, on pourrait dire, en tout cas d'origine européenne plus récente que la colonisation portugaise, sont des États très riches. Les États du Pará ou plus au nord sont des États beaucoup plus pauvres. Donc il y avait dans ce long parcours, imaginez que vous partez de régions où certains villages, donc dans le sud, dans l'extrême sud, certains villages sont, la population est blonde, enfin, tout le monde a les cheveux blonds, parle encore allemand pour une bonne partie. Donc vraiment, l'héritage allemand est très présent. Et vous vous acheminez 9 mois plus loin, dans un pays où la dimension, enfin comment dire, la part indienne et noire africaine est beaucoup plus importante. Enfin voilà. Et également des pays plus pauvres, enfin des États plus pauvres. Donc voilà, cette disparité, moi je la voyais également à travers le chemin, au fil des mois. Quoi. Voilà.
Donc on va parler, vous êtes revenu avec quand même cette grosse déception par rapport à l'accueil, ça c'était quand même une grosse désillusion aussi, vous n'aviez pas imaginé l'accueil chez l'habitant, c'est quelque chose qui vous a quand même choqué, et puis on verra donc ensuite s'il y a la plus grosse joie que vous avez rencontrée lors de ce voyage de 9 mois. Mmh.
Oui, voilà, effectivement, la déception, voilà, en plus c'était dès les premiers jours, hein, dès mon arrivée, quoi, où je me suis rendu compte que voilà, il faudrait compter, comme je l'expliquais tout à l'heure, il faudrait compter sur ses propres moyens, puisque dorénavant, et c'est ce qui s'est produit. Hein. Ensuite, la plus grande joie, je crois qu'encore une fois, il n'y a pas de moment vraiment extrême, des pics, c'est vraiment quelque chose de quotidien, c'est-à-dire que, bon, il y a... J'en parlais, il y a évidemment l'arrivée au terme de ces mois de marche, d'efforts, quoique, encore une fois, on n'exulte pas non plus, quoi. C'est une joie beaucoup plus intérieure, beaucoup plus sereine, en quelque sorte, et qui s'accompagne également de tristesse, d'ailleurs, c'est très, enfin, de mélancolie, puisqu'on, ça y est, on est parvenu. Donc cette joie est évidemment immense, quoique matinée, encore une fois, de mélancolie, mais... ce sont surtout des, je ne sais pas, moi je pense à des moments, vous ouvrez la tente dans la forêt amazonienne, vous ouvrez la tente en pleine nuit, enfin la moustiquaire, vous l'entrouvrez et là vous tombez sur un ciel où scintillent des étoiles mais immensément claires, précises, vives, et là vous êtes dans un endroit où vous seul vous êtes acheminé, quoi. Personne vous a dit d'aller là-bas, vous êtes là parce que vous êtes arrivé là et vous avez en plus la satisfaction d'y être arrivé par des moyens physiques, hein. C'est-à-dire que vous êtes le moteur qui vous a conduit là. Et prendre dans une ville à laquelle on arrive après 2 semaines sans vraiment de contact, en tout cas en traversant des hameaux, tout à coup vous, évidemment vous prenez un petit hôtel parce que vous traversez une ville et plantez la tente, il y a très peu sinon pas de camping au Brésil, donc vous trouvez un petit hôtel et là après vous êtes délassé, vous avez pu prendre une douche et vous vous asseyez à une terrasse sur la place de cette ville. Le soleil est doux et vous buvez une bière.
Voilà, ça, c'est un grand moment de bonheur.
Eh bien,
voilà,
oui,
bien sûr, on apprécie les choses simples.
Oui, parce que, encore une fois, tout prend du sens par la marche. D'ailleurs, c'est quand même un des aspects, et surtout, c'est quand même une dimension importante de ce voyage, c'est le fait qu'il ait été effectué à pied. Parce que tout change lorsqu'on voyage à pied. Enfin, ça, y a, ça, ce type de voyage a sa propre philosophie. Et notamment le fait qu'on se conduise quelque part, qu'on soit à la fois le moteur et le conducteur, tout ça change la perception qu'on a aux autres, à l'environnement, et apporte effectivement des joies parfois fulgurantes, ou en tout cas pour certaines autres très vives, et voilà, et parfois pour des choses très simples comme celle-ci, voilà, arriver et pouvoir boire une bière après deux semaines, où tout à coup on se trouve en ce lieu du monde où nous seuls nous sommes conduits, quoi, voilà.
Et alors, parmi les rencontres que vous avez faites, parce que j'imagine qu'il y en a eu des rencontres importantes ou des rencontres marquantes, est-ce que vous pouvez nous en parler et à quel moment elles sont arrivées?
Oui. Alors, là encore, en fait, au départ, voilà, je vais faire une précision parce que vous allez comprendre pour vous répondre au mieux. Au départ, moi, je partais dans l'ambition de réaliser une sorte d'ouvrage sur... qui aurait été une collection de portraits de Brésiliens, de Brésiliennes. Et j'aurais aimé les interroger sur leur façon de voir le monde, et donc déjà leur pays, évidemment, mais la façon dont ils considèrent le monde aussi. Et bon, je me suis rendu compte que ce projet n'était pas possible en marchant. C'est-à-dire qu'il fallait... Voilà, c'était pas viable. Donc j'ai abandonné ce projet en partant, en disant « on verra bien ». Et finalement... ce livre, La Brésil, La Grande Traversée, relate des portraits de gens rencontrés en chemin qui, toutes ces personnes, témoignent d'un certain Brésil. Alors, pour vous en donner certaines...
Voilà, on va écouter dans la lecture de quelques extraits,
oui.
Franck de Goule.
Notamment, voilà, précisément sur la rencontre. Hein, je vais essayer de vous... Voilà comment j'ai essayé d'en rendre compte. Je m'étais remis en marche depuis près d'une heure quand, au milieu de l'étendue illimitée de savane, apparut l'édicule d'un arrêt d'autobus en bois à l'exacte intersection de la BR et d'une large piste fuyant perpendiculairement vers l'ouest. Un homme vêtu de rouge y était assis, que je distinguais d'abord à peine. Lorsque je me fus approché suffisamment pour qu'il m'entendît, je lui demandai la permission de partager son banc pour souffler un peu et profiter de l'ombre qu'offrait l'abri. L'homme se poussa sans rien dire et me fit une place. De taille moyenne et d'une peau du plus beau noir, il devait avoir une bonne soixantaine d'années. Son visage, où le temps avait creusé d'harmonieux sillons, demeurait aimable et souriant. Quelque chose de bon enfant émanait de sa personne. Nous commençâmes à discuter très naturellement, comme deux solitudes soudain soudées par le désert environnant. Puisqu'il voulait la connaître, je lui narrai mon aventure. Le vieil homme m'écouta attentivement, puis, emporté par une passion subite, affirma que je n'avais rien vu du Brésil si je n'avais pas connu la magnificence do estado do Pernambuco, de l'état de Pernambuco, le plus somptueux, le plus singulier, le plus séduisant de ce grand pays. Ici, il n'y a rien à voir, c'est vide, c'est le désert, il n'y a rien. C'est le Brésil, bien sûr, mais ce n'est pas le Brésil, poursuivit-il. Mais le Pernambuco, ah, le Pernambuco. Cette émotion vive et fulgurante, surgissant d'on ne sait où, mais jaillissant avec ardeur, cette vigueur inattendue retrouvée tout à coup, tout cela me fit l'interroger sur ses origines. José Antonio de Oliveira était natif de la ville d'Olinda, dans l'état de Pernambuco, où il avait vécu la majeure partie de sa vie. Il me parla longuement de cette ville et de sa région, de sa culture et de son peuple, de sa vie et de sa musique, de ses odeurs, de ses commerces et de ses paysages, de sa situation géographique privilégiée en ce qu'elle permettait l'accès à de nombreux autres états du Nord-Est, tout aussi vivants et populaires. Il en évoquait les charmes avec des yeux troublés, envahis par deux affluents d'un même cours, la joie liée aux heureux souvenirs ravivés et la mélancolie que ceux-ci suscitaient ce faisant, comme le vent sec et chaud d'Harmattan soulève le sable qui clôt les paupières. « Cette ville vous manque, n'est-ce pas ? » osais-je lui demander, alors qu'une écluse venait de céder sous la pression des flots, charriant tant de cadavres. « Ma saudade est très grande, » répondit-il, d'une voix blanche, détachée, terrible d'une gravité diagnostique, semblable au regard que porte l'esprit qui s'élève pour constater la maladie du corps, irrémédiable et fatale. « Mais que faites-vous donc ici au milieu de nulle part ? » risquai-je enfin pour saisir la situation, autant que pour tenter d'y remédier. José Antonio, retraité, avait bénéficié du programme de la Reforma Agraria du président Luis Ignacio Lula da Silva et de la mesure corollaire de l'assentamento. Pour parer au problème crucial des paysans sans terre, La réforme agraire de Lula envisageait que le gouvernement fédéral distribue des parcelles à des bénéficiaires sélectionnés selon des critères socio-économiques, afin que ceux-ci puissent cultiver et vivre du revenu de leur travail. Ainsi, comme des milliers d'autres, José Antonio avait-il participé à ce programme ? Assorti des documents prouvant son bien fondé, sa candidature avait été recueillie par une association qui, à son tour, l'avait transmise à Brasilia, où elle reçut l'aval du ministère en charge de la réforme. José Antonio de Oliveira avait donc migré vers l'état d'Amapá pour y vivre sur une terre inaliénable qui jamais, par conséquent, ne lui appartiendrait. La communauté, constituée de nombreux migrants fraîchement arrivés, avait formé un asentamento, une collectivité rurale organisée en coopérative de création artificielle, ex nihilo, où se cultivaient igname, manioc, riz, mil, mais qui était située dans une région déserte où la ville la plus proche se trouvait à une trentaine de kilomètres et où les hommes, les femmes et les enfants s'y trouvaient déracinés. Le jour de notre rencontre, José Antonio attendait l'un des trop rares autobus se rendant à Tartarugalzinho, où il devait faire des emplettes. À 2 kilomètres de la BR, au bout de cette piste tendue au cordeau qui s'échappait devant nous, se trouvait cet assentamento où il était contraint de finir ses jours et où jamais il ne serait heureux. Expatrié au sein de sa propre patrie, arraché à son pays et à ses attaches, il se mourait du mal des exilés dans cette région vide et isolée. Je lui offris une cigarette, nous fumâmes côte à côte, et puis nous rîmes ensemble de cette situation, car au bout d'une tristesse et d'une mélancolie profonde, se cabrait le rire, dernier apparat, ultime élégance de la douleur. Je dus me remettre en route, lui souhaitant de tout cœur de regagner un jour sa région natale qui lui manquait tant. « Car tu sais, me confia-t-il en guise d'adieu, le plus bel endroit du monde est toujours celui où l'on est né et où l'on a grandi. » En m'éloignant, j'eus le sentiment que la perspective immensément vaste de ces savanes infiniment planes se refermait sur ce vieil homme reclus, petit point rouge et noir immobile au centre d'une désolation de broussailles et d'arbustes torturés. Voilà, cet extrait rencontre d'une rencontre avec ce José Antonio. Mais, et là, à travers lui, finalement, c'est une certaine population du Brésil qui est approchée. Et donc des rencontres, il y en a bien d'autres, parfois avec des gens dont on ne s'attendrait pas à ce qu'ils apparaissent dans un récit de voyage, à savoir que ce ne sont pas toujours des rencontres déterminantes, des personnages clés, un petit peu comme dans les contes, des gens qui tout à coup vous apporteraient la clé qui vous manquait. Ou voilà. En revanche, ce sont toujours des gens qui, d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils étaient, me permettaient d'entrer dans ce pays Brésil de l'intérieur et de les comprendre. Et donc, quelque part, qui tous, à leur manière, témoignaient d'un certain Brésil qui n'est pas toujours abordé lorsqu'on parle de ce pays. Donc je peux citer le cas d'une autre dame, simple gérante de pousada, c'est-à-dire de pension, qui, elle, m'entretient sur le rapport entre la vie et la mort, et me pose cette question. Crois-tu que si nous étions maîtres de notre existence, penses-tu que nous choisirions de mourir ? Des questions qui, tout à coup, effectivement, vous êtes en train de marcher, vous avez fait des milliers de kilomètres pour parvenir auprès de cette personne. Et puis, incidemment, elle vous pose cette question qui ressemble très fortement à un koan zen, à une sorte d'énigme qu'il faut dénouer pour parvenir à un sens plus élevé, plus général. Donc voilà, ce livre, je crois, a l'ambition d'accoler comme ça, de rassembler un ensemble de portraits, un petit peu comme on aurait fait à l'aquarelle ou en esquisse, de manière à essayer de cerner un petit peu par les gens rencontrés, par ses habitants, ce qu'est ce Brésil et ses paradoxes contemporains, à la fois ses forces et ses faiblesses, et tout ça par le fil rouge que constitue cette trans-brésilienne, qui en fait n'est pas réellement une route, une seule et même route du début à la fin, mais qui, dans cet ensemble de petites routes ou de routes fédérales aboutées, trace effectivement sur plus de 4000 kilomètres un lien entre les confins du nord et les confins méridionaux du Brésil. Donc à travers ce fil rouge, le suivant, c'est finalement un accès à une fenêtre sur ce Brésil de l'intérieur qu'invite l'ouvrage. Voilà.
Donc vous avez fait des rencontres, des personnes ont suscité votre curiosité, mais est-ce que vous-même, vous avez suscité la curiosité de ces personnes ?
Bien sûr. Alors, il y avait différentes perceptions. J'avoue que je parlais tout à l'heure du pèlerinage et j'avoue que autant ça ne m'a pas réellement aidé, autant par contre les gens que j'ai rencontrés avaient beaucoup de mal à imaginer que je puisse marcher pour le seul but de connaître leur pays en marchant. Et que bien souvent, évidemment, ils avaient des conceptions sociales. Et donc, ils ont essayé de me mettre dans une des catégories qui leur paraissait la plus pertinente, en l'occurrence. Et à savoir celui de la promessa, on dit en portugais du Brésil, c'est-à-dire une sorte de vœu. Il s'avère qu'au Brésil, la marche n'est pas vraiment pratiquée, en tout cas beaucoup moins qu'on peut le faire en France, et n'a pas surtout ce statut d'activité noble. En revanche, il n'est pas rare que des personnes qui sollicitent une grâce donc religieuse hein, pour la guérison d'un proche, d'un enfant, lorsque la guérison est advenue, lorsque leur vœu a été exaucé, eh bien, promettent dès le début, et donc s'acquittent d'une sorte de dette, pardon, qui est notamment qui passe par la marche, à savoir bon, bah, je me rendrai à tel pèlerinage qui se déroule à 150 ou 200 km de chez moi, je le ferai chaque année en marchant, de manière à pouvoir payer de ma personne en retour de la grâce obtenue. Donc beaucoup de gens pensaient, et pour eux il était certain que j'effectuais une promesse, que j'effectuais un retour, et que si je démentais, c'était que je ne voulais pas m'étendre sur l'origine de la grâce obtenue. Donc, alors la perception, voilà, donc c'était notamment celle-ci. Et bon, évidemment, bon, qui dit, il y a bien sûr un cheminement sur des pistes, mais également sur des routes, et qui dit route, dit routier, voilà, dans un pays où 60% des transports se fait par la route. Il faut imaginer, hein, lorsque le gouvernement brésilien parle de réduire l'émission de gaz, et en fait, il y a un paradoxe, parce que le réseau ferré est très très peu développé, alors que le pays le permettrait, hein, de par sa géographie. Voilà, 60% du trafic se fait par camion. Donc les camionneurs sont un petit peu les héros brésiliens. Et alors, eux me voyaient évidemment marcher, parce que certains prennent le même itinéraire plusieurs fois par mois, et suivaient ma progression, et certains s'arrêtaient. Me demander des nouvelles. Certains autres, parfois même, m'envoyaient des bouteilles d'eau, de la nourriture, et ça plusieurs fois. Et donc j'étais devenu un petit peu l'ami de ces personnes qui empruntent sur des milliers de kilomètres parfois ces routes fédérales, et qui, quelque part, en ma démarche, ben, voyaient une sorte d'homologue, puisque nous étions, eux et moi, livrés à la route de jour comme de nuit, avançant, partageant les stations-service où je pouvais planter ma tente en toute sécurité, parce que tout le monde me déconseillait évidemment de m'installer ailleurs, en me disant si tu te trouves seul, tu es déjà mort. Donc les stations-service étaient une sorte de petite oasis comme ça, au travers de l'immensité du paysage, et puis également on pouvait s'approvisionner en eau. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, il y avait cette sociabilité et cette relation très particulière aux camionneurs que je respecte beaucoup, et que en tout cas, pour ce qui est du Brésil, je pense que c'est le même cas en Europe, puisque ce sont des voyageurs d'une certaine forme. Enfin bon, on pourrait y revenir, mais bon, voilà. Les rencontres, la perception était plutôt positive par ces catégories de population.
Alors, au-delà de ces rencontres, on va parler de l'environnement. Vous avez traversé des tempêtes. Est-ce que vous voulez nous en parler ?
Oui, alors une tempête dans le sud, effectivement, qui a quand même marqué les annales, parce que la presse, le lendemain, vraiment, on faisait les gros titres, il y a eu beaucoup de dégâts. C'est une tempête, oui, avec des vents à plus de 130-140 km/h. Et là, lorsqu'on s'y trouve confronté entre deux villages, donc sans vraiment endroit où se réfugier, dans un premier temps, on en rit beaucoup. Ça ressemble à un sport extrême, donc on est vraiment emballé. Là, je m'étais réfugié sous un abri d'autobus avec un simple toit de tôle. Les grêlons tombaient. Enfin, c'était assez impressionnant. Et puis, plus des minutes passent, moins on en rit, puisque là, on se dit quand même on est au cœur d'un phénomène qui nous déborde et dépasse largement. Et lorsqu'on sent que la nature déploie une telle force et qu'on s'y trouve, nous, très désarmés, en plein cœur, là, c'est plutôt la peur qui l'emporte, et on essaye de s'abriter au mieux et de faire en sorte que, surtout l'abri qui nous abrite, ne s'envole pas sous l'effet d'une bourrasque. Donc voilà, il y a eu des choses, effectivement, comme ça, des moments où c'est nouveau, il faut s'y adapter, essayer de comprendre, et puis surtout se réfugier, ne pas prendre de risques, puisqu'on a encore beaucoup de routes à faire. Et ça, c'est aussi un des paramètres de ce type de voyage, c'est que... On part pour 5000 km et on se dit que chaque jour, un événement ou un incident, même peut-être minime, peut faire en sorte que le voyage s'arrête, s'achève. Donc c'est vraiment, on est sur un fil, c'est-à-dire que on veut parvenir et en même temps, on sait qu'on est d'une vulnérabilité, d'une fragilité incroyable, hein, sans carrosserie, sans armure, quoi, voilà.
Alors, le principe de l'écriture, donc carnet de voyage, c'est quelque chose dont vous étiez habitué à écrire avant. C'est pas votre premier livre.
C'est pas mon premier livre. En revanche, c'est mon premier récit de voyage. Auparavant, c'était des essais, mm-hmm. beaucoup d'articles scientifiques, donc traitant du vaudou notamment, du zombie haïtien. En récit de voyage, non, c'était la première fois. Et j'avoue que ce n'est pas évident parce que le récit de voyage est vraiment un genre à part entière. Alors, il y a de multiples façons de rendre compte d'un voyage, mais s'inscrire dans la narration du voyage, dans cette tradition, demande vraiment, lorsqu'on n'y est pas habitué, à un certain travail sur le texte. Parce qu'il y a beaucoup d'exigences, en fait, dans un récit de voyage. Il faut à la fois essayer de... simultanément de traduire les émotions et puis surtout le concret quotidien, hein, quel matériel, comment on fait pour dormir, pour manger, pour boire, où on va, et en même temps sans parler de soi non plus tout le temps, puisque c'est pas forcément ce qui va toujours intéresser le lecteur, c'est un voyageur dans un pays, et donc laisser une place prépondérante importante à ce pays à travers les pages. Et donc, il y a cet équilibre à trouver, qui n'est pas toujours facile à trouver, parce qu'on se dit qu'on enlève tel détail, ce qui va pénaliser l'ensemble. Voilà, c'est un équilibre qui se fait en travaillant et retravaillant le texte, jusqu'à aboutir à un récit, qui en plus, voilà, une autre question parmi d'autres, enfin, ce qui peut paraître un détail, mais qui n'en est pas un, c'est-à-dire, lorsqu'on a vécu un voyage du début à la fin, sur 8 mois, on ne peut pas faire une chronique, c'est-à-dire quelque chose qui soit un compte-rendu du quotidien, où le 8 mars serait suivi du 9, puis du 10. Non, dans tout ce voyage, il va falloir choisir ce qui est signifiant, ce qui est donc digne d'intérêt aussi pour le lecteur, et surtout signifiant, à travers ça, à travers cette anecdote, à travers cette rencontre, qu'est-ce qui est dit au-delà même de l'anecdote ou de la rencontre sur le voyage en général. Et c'est un petit peu comme écrire une chanson, je crois. C'est-à-dire trouver en peu d'espace, trouver le mot et l'organisation juste qui fait qu'on peut évoquer des choses qui dépassent le simple texte. On n'a pas l'espace suffisant pour tout dire. Et donc on va essayer de trouver des choses qui nous permettent de lire ou de comprendre entre les lignes. Voilà. Et la construction d'un récit de voyage, pour moi, c'est ça. Et ça a été l'autre partie du voyage et de l'aventure. C'est une fois rentré, commencer à reprendre son carnet de notes, où là, en revanche, les jours se suivent et se suivent bien. Retravailler la langue, évidemment, mettre en forme, puis couper certains paragraphes, la coller à d'autres, même s'ils sont un peu plus lointains, mais qui ont un lien entre eux. Enfin, il y a un vrai travail. Le texte devient une matière, un matériau, ces notes de voyage. Et on va essayer de modeler, de sculpter, pour parvenir à quelque chose qui rende compte d'un voyage sans sa linéarité, qui nous lasserait vite.
Que justement, en vous relisant, en retravaillant le texte, vous vous êtes surpris vous-même avec des choses que vous aviez oubliées comment on fait la découpe justement et le moment est différent entre le moment où on écrit, où on a vécu les choses et le moment où on se relit plusieurs mois plus tard.
Oui. Ah oui, il y a un tamisage là aussi, en fait, qui effectivement la mémoire joue, puisqu'on est, les événements sont moins chauds, hein, on s'en est distancé dans le temps. Mais quelque part, c'est aussi intéressant, parce que si on veut avoir la maîtrise de l'ensemble, si on veut avoir une vision de l'ensemble, finalement, à adhérer trop aux événements qui sont rapportés, parce qu'on en aurait une mémoire vive, récente, à mon avis, handicaperait, puisqu'on serait un peu trop pris dans ce réel dont on essaie de rendre compte. Et puis, je crois qu'il y a aussi l'acceptation du fait qu'il y a un certain moment où la vérité est là, puisque tout cela a été vécu, consigné dans un carnet, et qu'en même temps, le travail d'écriture commence précisément au moment où on peut commencer à prendre des libertés avec cette réalité. Non pas qu'on invente, non pas qu'on invente tel événement, mais par exemple, dans la rencontre, ce José Antonio, dont j'ai fait la lecture tout à l'heure, de ce passage, José Antonio, effectivement, est comme je le décris, et en même temps, n'est pas comme je le décris. C'est-à-dire qu'il va falloir, à certains aspects, forcer le trait de manière à trouver une cohérence, mais là aussi, un petit peu à la manière, non pas d'un caricaturiste, mais d'un dessinateur qui appuierait plus sur l'ombre ici pour mettre en valeur un visage, ou qui changerait la nature de l'arbre qui se trouve derrière la personne qui est représentée. Enfin, tout ça, c'est un travail d'écriture très intéressant, passionnant, puisque ça demande à être tout à la fois dans le vrai et dans le plus que vrai, de manière à ce que la personne dont on parle dise plus qu'elle-même, dise quelque chose du pays, et qu'un trait de sourcil dise quelque chose de la personnalité de celui qui porte ses sourcils. C'est étonnant, mais c'est souvent comme ça. C'est parfois par les détails. Voilà. Et ça, c'est effectivement un travail passionnant qui vient clore cette aventure, mais qui est, au sens propre également, une aventure à sa manière, l'aventure de l'écriture et de rendre compte de ce voyage.
Franck de Goul, on va faire une seconde place à la musique et on va écouter Marcio Farraco et on se retrouve tout de suite.
Tento correr, o tempo para. Se paro pra ver, o mundo anda. Ele vem bater na minha cara. A vida é sempre essa ciranda.
Se a noite me traz uma tristeza, o dia vem cheio de alegria. O que falo agora com certeza, há pouco não sei se eu diria.
Eu quero gritar, ninguém me escuta. Está tudo preso na garganta. Às vezes me cansa tanto a luta, e é pra não chorar que a gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta.
Enchi de esperança o coração. A luz que lá estava foi chegando. Era um trem carregado de ilusão.
Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação.
A gente que sempre dançou samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta. A gente canta. A gente canta. A gente canta. Eu vi uma luz no fim do túnel, enchi de esperança o coração. A luz que lá estava foi chegando. Era um trem carregado de ilusão.
Andando só na corda bamba, não temo o futuro da nação.
A gente que sempre dança o samba, enfrenta qualquer divisão. A gente canta. 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 A gente canta.
Radio Fréquence Mistral,
un vent de joie dans votre vie.
Et on reprend après Marcio Faraco qui nous chantait Ciranda, c'est ça ?
Ciranda.
Je retrouve bien sûr mon invité Franck de Goule pour la sortie de son livre Brésil, la grande traversée aux éditions Transboréales, dont il va nous lire encore un petit extrait.
Bien volontiers. Donc, ça s'intitule « Tout vient à pied, à qui c'est attendre ?» Alors dites-moi, qui êtes-vous ? Je gravissais une côte quand, parvenu à son sommet, un poids lourd de couleur rouge s'arrêta sur l'accotement. Je remarquai que le conducteur en était descendu et se livrait au contrôle de la pression d'air des pneus à la brésilienne, c'est-à-dire telle que le font tous les routiers, adeptes de la musique pneumatique, à l'aide d'un grand maillet battant de plusieurs coups secs chacun d'eux afin d'en déduire, au son obtenu en réponse, leur éventuel dégonflement, voire leur possible crevaison. Comme je le dépassais, on m'interpella. Me retournant, je constatai que le conducteur de l'engin venait à ma rencontre tout en me faisant signe de l'attendre. Intrigué, je laissai l'homme me rejoindre. Âgé d'une petite quarantaine d'années peut-être, la peau légèrement cuivrée et les cheveux courts et noirs, vêtu avec soin et arborant des verres fumés et une chaîne en argent en maillon robuste par-dessus son t-shirt, façon Rital Tropical, l'homme me salua et m'interrogea aussitôt. « Alors dites-moi, qui êtes-vous ? » Je restai interdit un court instant, suffisamment néanmoins pour que le routier enchaîna en manière de justification de son geste. Non, parce que mon collègue m'a parlé d'un Français qui marchait sur cette route et traversait le Brésil à pied. Et moi, je vous vois depuis quelques jours déjà, et mes collègues aussi. Alors on s'interroge. On s'est dit, ça ne peut pas être un vagabond. Il porte parfois un short, parfois un pantalon, toujours une chemise et un sac à dos. Sa mise est propre. On s'est dit qu'il devait s'agir d'une recherche ou de quelque chose comme ça. Enfin, on en parle entre nous à la radio, quoi. On s'interroge, en somme. Souriant, puis riant sans offense aucune, j'expliquais à grands traits la nature de mon aventure, abondant dans le sens de mon interlocuteur pour ce qui concernait une recherche personnelle, ajoutais-je simplement pour être tout à fait exact et parfaitement honnête. Je comprends mieux, oui, je comprends mieux, fit le routier. C'est pourquoi on vous voit parfois prendre des photos en bord de route, vous arrêter. Quand j'expliquerai ça aux collègues, en tout cas, je vous admire vraiment. Je le questionnai à mon tour et appris qu'il transportait du soja jusque dans l'état voisin, celui du Maranhão. Il parcourait cette BR plusieurs fois par semaine au gré de ses allers-retours. « On a donc toutes les chances de se revoir sur cette route ?» lui lançai-je avec l'intonation d'un clin d'œil. « Ah ça oui, sans aucun doute. Observez bien l'inscription qui figure à la tête de mon camion. C'est le nom de l'entreprise. Vous voyez ? Ainsi, vous le reconnaîtrez parmi tous les autres. « N'y a-t-il que le vôtre à en être muni ?» lui demandai-je alors pour être certain qu'il s'agirait du sien. « Non, non, la compagnie qui m'emploie possède une flotte de véhicules, mais cela ne changerait rien. Vous auriez affaire à la même maison, à la même famille. » Nous rîmes de bon cœur. Avant de nous séparer sur une poignée de main franche et débordante d'amitié spontanée, l'homme tint à me poser une ultime question. « Dites-moi, s'enquit-il, attentionné, lorsque nous nous reverrons, comment pourrais-je vous être utile ? Que pourrais-je vous offrir pour participer à cette aventure ?» Je réfléchis longuement, puis gêné, hasardé, de l'eau ou un peu de nourriture, ce sera très bien. L'homme acquiesça et précisa son prénom en prévision de notre prochaine rencontre. Alors nous nous séparâmes, ainsi que je l'ai dit, amicalement. Il remonta dans sa cabine et je me remis en marche. Lorsqu'il parvint à ma hauteur, ayant déjà presque atteint sa vitesse de croisière, il projeta un puissant et tonitruant coup de klaxon et m'adressa une vive salutation du bras, à laquelle je répondis tout aussi chaleureusement. J'étais désormais l'ami d'un camion rouge, de son conducteur, de son entreprise, de la route Belém-Brasilia et, qui sait, peut-être déjà du Brésil tout entier.
Voilà, merci Franck de Goule pour ce second extrait de votre livre « Brésil, la grande traversée ». Une belle écriture, j'aime beaucoup l'intonation d'un clin d'œil. Et donc ce livre, on peut le trouver partout. Qu'est-ce qui vous est, donc vous avez parlé de votre grand bonheur, c'était aussi l'arrivée. Mm-hmm. Comment vous êtes revenu avec tout ça ? Vous avez pris des photos aussi ?
Oui, oui, énormément, bien sûr. Et d'ailleurs, je vois, là c'est l'occasion de préciser que le livre... cette collection Sillage des éditions Transboréales dans laquelle figure donc mon ouvrage Brésil, la grande traversée, ce livre est doté d'un cahier photo central d'une vingtaine de pages, et pour ceux qui seraient intéressés par l'ouvrage, qui pourraient l'approcher, vous verrez que les photos sont vraiment d'une qualité saisissante. C'est souvent ce qui pêche un peu dans les ouvrages où figure ce type de cahier photo. Là vraiment l'accent est mis sur la qualité des photos et sur le rendu des couleurs, et qui témoigne bien, ça, le choix a été fait avec l'éditeur, hein. Nous avons essayé de sélectionner celles des photographies qui pouvaient témoigner de cette diversité des reliefs traversés et des environnements sur 5000 km, ce qui n'est pas une simple affaire, quoi.
Qu'est-ce que vous avez appris sur vous en revenant de ce voyage ? Donc vous revenez riche de votre carnet de voyage, le travail après d'écriture, de montage, enfin un long travail pour la réalisation de ce livre, puisque entre votre retour en 2010 et aujourd'hui en 2015, dans quel état vous avez été suite à ce voyage ?
Comme tout voyage, je dirais, enfin tout voyage engagé... Il y a une grande période pendant laquelle on n'est plus là-bas ni tout à fait ici. On est entre les deux.
Un peu déphasé de, ah oui, de ce sûr. Changement de culture. De...
Bien sûr. En fait, voilà. Et puis premièrement, ce qui, je dirais, la chose la plus évidente, c'est que le corps demande infiniment à marcher. C'est-à-dire que tout à coup, pour les besoins de sa réinstallation et de son retour, on ne parcourt plus 28 km par jour. Et là, le corps a cette même faculté à nous faire comprendre qu'il a besoin de continuer à fonctionner à ce rythme-là. Et donc, on trouve la moindre occasion pour aller se dépenser, marcher, voilà. Ensuite, la chose est plus raisonnée, quoi. Mais donc, voilà, premier retour, première conséquence, c'est ce... On comprend que le corps a son propre fonctionnement, et intime désordre à l'esprit. Et puis, voilà, on est dans une sorte d'entre-deux. Mais ça, je connaissais ce sentiment et cette situation pour l'avoir vécu auparavant, encore une fois, au retour de séjours assez longs en Haïti, puis en Martinique. Je savais cet état qu'il faut apprendre à domestiquer, c'est-à-dire où on est à la fois dans le pays qu'on a quitté et en même temps avec l'ambition de retrouver des gens qu'on a quittés des mois auparavant. Et donc, on est en décalage. Et ce décalage, c'est nécessaire, c'est-à-dire qu'en fait, on n'intervient pas, il se produit, mais il faut quand même apprendre à le domestiquer, sinon on finit à essayer de poursuivre cet entre-deux qui n'est pas très bon, en fait, quoi, qui n'est pas très constructif. Donc là, je partais quand même muni de cette expérience antérieure pour essayer de gérer au mieux cette phase de retour. Et puis, en fait... Des souvenirs nous assaillent, qu'on le veuille ou non. Parfois, un détail va éveiller quelque chose qu'on pensait enfoui. Un petit détail le long de la route, le long d'un sentier. Et bam, le souvenir revient avec vraiment comme un cheval au galop, quoi. Enfin, c'est un retour toujours malaisé qu'on essaye de gérer au mieux.
Est-ce qu'il y a eu l'envie de retourner dans ce pays, approfondir, oui. Trouver d'autres choses ?
Ah oui, bien sûr. Oui. Là, je ne connais pas le Brésil. Voilà. Je connais un certain Brésil, celui qui a été au bout de mes pieds et dont j'essaie de rendre compte au mieux, qui est également le Brésil, mais qui n'est pas, voilà, qui est un Brésil particulier. Donc oui, j'aimerais beaucoup y retourner. Je n'ai pas eu l'occasion depuis. J'espère que ça se fera certainement, j'espère, à court terme, parce que c'est un pays merveilleux de diversité, de relief, des populations, des musiques, enfin d'une variété, d'une richesse incroyable, vraiment. Donc oui, bien évidemment. Et j'aimerais particulièrement connaître la région de Bahia, où je ne me suis pas encore rendu, Bahia dans le Nord-Est, qui est quand même le foyer de ce qui m'avait amené au Brésil dans un premier temps, le foyer de cette religion afro-brésilienne du candomblé. Et donc, oui, j'aimerais beaucoup, dans les années qui viennent, pouvoir y retourner et le connaître, pas forcément par la marche, peut-être là de manière un peu plus localisée et profonde, dans le sens où rester peut-être plus longtemps dans les endroits qui seraient visités.
Alors, on n'a pas parlé du tout de la musique, mais parce que vous composez aussi de la musique, vous avez mis cette activité entre parenthèses pendant un temps. Le Brésil, c'est la musique aussi est très importante. Ah oui. Est-ce que vous aviez un casque sur les oreilles avec de la musique pendant vos marches ou
Oui. J'avais effectivement un petit baladeur. J'écoutais pas toujours en marchant, puisque ça dépendait des endroits où je me trouvais ou des villes à traverser. Mais lorsque c'était possible, oui, j'en écoutais. Alors qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait du Billie Holiday, il y avait du Noir Désir, il y avait du Miles Davis, donc beaucoup de jazz. Évidemment, Noir Désir, je vous assure que écouter. comment s'appelle ce morceau, Le vent l'emportera, avec la perspective des routes infiniment planes du brésilienne, ça c'est quelque chose. Mais et d'ailleurs, qui dit je n'ai pas peur de la route, faut la voir, faut qu'on l'écoute. Et ça allait à merveille avec ce qui se passait à ce moment-là. Donc oui, de la musique. Et puis c'était aussi un compagnon parfois le soir. Parce qu'encore une fois, bon, hormis lorsqu'on se trouve dans les petits hôtels, planter sa tente, encore une fois, je pense par exemple à cette dernière étape avant d'arriver en Guyane française. Il y a 300 km de piste. Et on dort là, sur les abords de la piste, en lisière de forêt amazonienne. Et il faut là aussi apprendre à être seul la nuit, dans la plus parfaite obscurité, avec cette forêt bruissante, animée constamment. Et j'avoue, parfois, se réfugier dans un casque permet de dissiper un petit peu et de faire écran à cette étrangeté naturelle qui se trouve autour de nous, quoi. Voilà, et qu'on appréhende déjà en journée en marchant. Et donc voilà, c'est parfois l'occasion de s'abstraire un petit peu de l'aventure en cours, ce qui fait énormément de bien, oui.
Alors, on a parlé musique aussi, donc vous n'êtes pas revenu avec l'envie d'écrire une chanson, par exemple. Non, voilà. Bon, un livre, déjà, c'est pas mal.
Oui, c'est ça.
et vous, à votre retour, donc, vous êtes engagé dans une association à caractère social et vous travaillez auprès de personnes sans-abri dans des centres d'hébergement d'urgence.
Oui.
Des Alpes d'Haute-Provence. C'est un hasard, comment...
ça a été un hasard au début. Enfin, c'était une opportunité par des remplacements. Et puis finalement, c'est devenu une activité fixe. Voilà, parce que non seulement c'est une activité utile, à savoir que l'animation et le fait de faire vivre une structure d'accueil pour personnes sans abri, qu'elles soient en demande d'asile, enfin, quelle que soit la situation... Et qui en même temps, donc cette activité laisse également du temps en journée, c'est une activité nocturne, et donc laisse du temps en journée pour conduire ses propres projets à côté, avoir du temps, écrire, lire, marcher, voilà. Donc je trouvais que cet équilibre entre d'une part l'utilité sociale de l'activité et en même temps le temps libre, qui est quand même une valeur capitale, c'est un luxe, ce temps dont on peut disposer, je trouvais que l'équilibre était assez réussi, ce qui n'est pas toujours évident avec les professions, puisque soit on est emporté par cette profession au risque de ne plus avoir de temps du tout, soit on dispose de beaucoup de temps, mais à ce moment-là, l'utilité sociale est peut-être moins grande, enfin, ou différente. Enfin, voilà, je trouvais que c'était un bon équilibre pour le moment.
Alors, on parle de directeur de mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, j'ai encadré également une recherche qui portait sur la demande d'asile. Une recherche donc, d'un étudiant qui travaillait sur ce sujet pour un diplôme. Voilà, donc c'est auprès du collège coopératif d'Aix-Marseille, donc à Aix-en-Provence. Donc ça peut dire l'encadrement d'une recherche, de la préparation de la bibliographie, à les questions méthodologiques, jusqu'à la participation au jury qui permet à ce moment-là d'évaluer le travail du candidat et d'attribuer une note relative à ce diplôme. Donc oui, effectivement, ça fait partie. Mais encore une fois, c'est l'activité du moment, mais ça peut changer demain. Enfin,
Franck de Gaulle, l'émission touche à sa fin. Vous êtes revenu aussi donc fin 2010 et vous êtes aujourd'hui papa de deux enfants. Vous allez leur faire passer quel message ?
Déjà, vous remarquerez que le livre leur est dédié, puisqu'il porte cette inscription... pour mes fils, en prélude aux aventures qu'ils sauront élire. Donc, c'est quelque part, j'espère qu'ils auront un regard sur leur papa lorsqu'ils seront un peu plus grands, et que ce livre contribuera à un certain regard qu'ils porteront sur leur papa, et peut-être un exemple, en tout cas les inciter au voyage, de toute manière, ou en tout cas à une aventure, quoi, quelle que soit sa forme. Mais le voyage en est une bonne, de forme d'aventure, mais... Voilà, je souhaite, après chacun a son trajet, ils ont peut-être leur personnalité qui, voilà, mais je souhaiterais qu'ils aiment voyager et qu'ils s'éprouvent dans le monde.
Vos projets immédiats, donc, c'est la vente de ce livre, Brésil.
Oui.
La Grande Traversée aux éditions Transboréal, que l'on trouve dans toutes les librairies. Oui. Et vous avez d'autres projets
Pour le moment, c'est effectivement assurer la vie de cet ouvrage. Ensuite, ce serait plutôt des projets d'écriture, d'autres, dans d'autres registres. Hein. Encore une fois, une expérience conduisant à une autre. J'ai déjà des idées en tête. Voilà, ça va se faire. Mais là, pour le moment, effectivement, chaque chose en son temps. Hein, c'est aussi ce qu'apprend ce voyage, quand la journée est réussie. Voilà, la journée à réussir, c'est celle d'assurer la vie de cet ouvrage, puisque encore une fois, lorsqu'on y consacre énormément de temps, d'énergie, et qu'on y croit, et qu'on veut vraiment le meilleur pour son livre, et qu'on soigne, et qu'on traite l'écriture, bref, lorsqu'on a mis beaucoup de sueur et d'effort dans un ouvrage, on veut qu'il rencontre ses lecteurs, évidemment, parce qu'on pense qu'on a donné le meilleur de soi, et on veut qu'il puisse avoir sa vie, et qu'il puisse marcher de son propre pas.
Franck de Goule, merci. Est-ce qu'il y a un site, Franck de Goule?
Oui, vous pouvez déjà aller au site des éditions Transboréal. Là, vous verrez la page dédiée à l'auteur, à l'ouvrage, des extraits, une biographie. Également sur Facebook, donc soit sur ma page personnelle, Franck de Goule, CK, FRNCK, DEGUL, soit sur la page de l'ouvrage, une page lui est dédiée. Donc Brésil, la Grande Traversée. Vous trouverez avec des bonus, si on veut, hein, des photos, des croquis, des choses comme ça, qui accompagnent l'ouvrage et qui sont en plus, et qui raviront ceux qui veulent approcher l'ouvrage.
Et puis l'émission sera en ligne très très vite sur Fréquence Mistral, www.fréquencemistral.com, dans l'onglet de Digne émission passionnément vôtre. Merci, bonsoir, au revoir.
Au revoir.
Astronauta, tá sentindo falta da Terra? Que falta que essa Terra te faz? A gente aqui embaixo continua em guerra, olhando aí pra Lua, implorando por paz. Então me diz, por que que você quer voltar? Você não tá feliz onde você está? Observando tudo à distância, vendo como a Terra é pequenininha, como é grande a nossa ignorância, e como a nossa vida é mesquinha. A gente aqui no bagaço, morrendo de cansaço, de tanto lutar por algum espaço. E você, com todo esse espaço na mão, querendo voltar aqui pro chão. Ah não, meu irmão, qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na lua?
Eu vou pro mundo da lua, e é feito um hotel, aonde os deuses e deusas se abraçam e beijam no céu.
Ah não, meu irmão, qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na lua? Fica por aí que é o melhor que cê faz. A vida por aqui tá difícil demais. Aqui no mundo o negócio tá feio, tá todo mundo feito cego em tiroteio, olhando pro alto, procurando a salvação, ou pelo menos uma orientação. Você já tá perto de Deus, astronauta, então me promete que pergunta pra ele as respostas de todas as perguntas e me manda pela internet.
Eu vou pro mundo da lua, e é feito um hotel, aonde os deuses e deusas se abraçam e beijam no céu.
É tanto progresso que eu pareço criança, essa vida de internauta me cansa. Astronauta, cê volta e deixa eu dar uma volta na nave. Passa a chave que eu tô de mudança. Seja bem-vindo, faça o favor e toma conta do meu computador, porque eu tô de mala pronta, tô de partida, e a passagem é só de ida. Tô preparado pra decolagem, vou seguir viagem, vou me desconectar, porque eu já tô de saco cheio e não quero receber nenhum e-mail com notícia dessa merda.
Eu vou pro mundo lua, que é feito um hotel, aonde os deuses e deusas se abraçam e beijam no céu.
Eu vou pra longe, onde não existe.
resista à gravidade, pra me livrar do peso da responsabilidade de viver nesse planeta doente e ter que achar a cura da cabeça e do coração da gente. Chega de loucura, chega de tortura. Talvez aí no espaço eu ache alguma criatura inteligente. Aqui tem muita gente, mas eu só encontro solidão, ódio, mentira, ambição. Estrela por aí é o que não falta, astronauta. A Terra é um planeta em extinção.
Eu vou pro mundo.